Bien, nous reprenons le colloque au rythme où nous l'avons défini. Bonjour Vinciane. Et donc, je vous présente Annegret Fauser, qui est musicologue, qui est Carrie C. Bosshammer Professor of Music, University of North Carolina, Chapel Hill, aux États-Unis. Et ses recherches portent notamment sur la musique européenne et américaine des 19e et 20e siècles, et sur en particulier l'opéra, mais aussi sur les échanges musicaux internationaux, sur les femmes compositrices et sur les usages de la musique dans les guerres et dans les phénomènes de commémoration. Parmi ses livres, je pourrais citer son analyse consacrée à l'œuvre de Aaron Copland, Appalachian Spring, son livre Sounds of War, Music in the United States during World War II, ou encore Musical Encounters in the 1889 Paris World Fair, c'est-à-dire l'exposition universelle de Paris en 1889, qui est un classique. Et un livre collectif va paraître, Performing Commemoration, Musical Reenactment and the Politics of Trauma. Voilà, je lui donne la parole sur Kovanchina de Moussorgski.
Merci beaucoup, merci pour cette belle invitation et c'était une matinée déjà absolument fascinante. Et là maintenant, on va nous balader vers les achèvements musicaux. La saison parisienne des ballets russes en 1913, rendue célèbre par le scandale du Sacre de printemps d'Igor Stravinsky, a amené une réussite extraordinaire pour Serge Diaghilev avec la première représentation hors de Russie de Kovanchina de Modeste Moussorgski. Attendue depuis si longtemps, comme l'a constaté Jacques Blanvillers dans Le Figaro, cette œuvre a été célébrée dans la presse parisienne comme la révélation triomphale d'un chef-d'œuvre saisissant, sinon magnifique. Comme l'œuvre mieux connue, Boris Godounov, Kovanchina était un opéra sur la Russie ancienne, mettant en opposition le monde traditionnel de la secte des vieux croyants, sous la direction du père d'Osité, et celui plus moderne et occidental du tsar Pierre le Grand. Mais si le public présent au Théâtre des Champs-Élysées, se passionna pour cet opéra russe et ses interprètes, Kovanchina posait néanmoins des problèmes pour les musiciens et critiques. Comme le résume un critique anonyme du Cri de Paris, je cite, « Les mélomanes étaient anxieux de savoir ce que devient un chef-d'œuvre inachevé lorsque l'auteur mort n'est plus là pour le défendre. » Crainte superflue. Dans son pieux travail d'achèvement, Rimsky-Korsakov a respecté tout ce qui forme le caractère musical si ardent et si personnel de Moussorgski. Monsieur de Diaghilev s'était autorisé de cette collaboration posthume pour demander à son tour une mise au point de messieurs Maurice Ravel et Stravinsky. Cette brève mise au point au sujet de l'achèvement posthume d'une œuvre musicale nous indique plusieurs des questions qui se posent face à la création qui reste en suspens après la mort d'un compositeur. L'auteur du Cri de Paris aborde ici le rôle respectif de l'auteur original et des créateurs des différentes versions achevées. Il évoque la question de l'autorité artistique, et il suggère qu'un tel achèvement posthume pourrait affecter l'essence même d'une œuvre retravaillée. Ces trois points dominent les décisions artistiques et musicales formant cette Kovanchina de 1913. De plus, il constitue un cadre fondamental aussi pour les réactions de l'époque que pour les discussions contemporaines concernant le travail à l'œuvre musicale à plusieurs mains. Je propose dans mon intervention aujourd'hui d'examiner la genèse, la représentation et la réception de cette version parisienne de Kovanchina sous ces trois angles et d'explorer ce que ce cas assez unique de collaboration posthume transnationale peut nous enseigner au sujet de la finition d'une œuvre musicale inachevée. Bien que plusieurs chercheurs aient discuté certains aspects de cette adaptation, en particulier le rôle de Stravinsky, ma contribution offre pour la première fois une investigation plus complète de la question même de l'intrigue de l'achèvement de l'œuvre par-delà des frontières, en utilisant des sources nouvelles ou négligées, des manuscrits originaux jusqu'à la presse musicale. L'histoire de la version parisienne de Kovanchina commence à l'hiver 1910, quand Serge Diaghilev visait une saison Moussorgski à Paris, Bruxelles et Londres, qu'il annonça dans une interview avec Petersburgskaya Gazeta. En préparation de cette entreprise, il s'est rendu à la bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg pour comparer le manuscrit de Moussorgski avec la version de l'opéra créée par Nikolaï Rimsky-Korsakov dans les 18 mois après la mort du compositeur en 1881. Un tel achèvement posthume était nécessaire, étant donné qu'au moment de la mort du compositeur, deux scènes seulement étaient orchestrées, le reste n'était en version chant et piano ou encore des feuilles d'esquisse. C'est la version de Rimsky-Korsakov qui avait servi pour la première de Kovanchina à Saint-Pétersbourg en 1886, ainsi que pour d'autres représentations en Russie. Diaghilev a formé le projet d'une restauration de l'œuvre basée sur le manuscrit laissé par le compositeur après avoir réalisé à fil de ses comparaisons l'étendue de coupures et des interventions compositionnelles de Rimsky-Korsakov, y compris la composition en entier du chœur final de l'opéra. Après sa décision, en l'automne 1912, d'inclure Boris Godounov et Kovanchina dans la saison des ballets russes en 1913 à Paris et à Londres, il a chargé Igor Stravinsky, qui venait de compléter la partition du Sacre du printemps, d'orchestrer les passages omis dans la version de Rimsky-Korsakov. Il n'est pas clair quand ce projet de restauration a commencé à inclure aussi la composition d'une nouvelle fin du cinquième acte pour remplacer celle de Rimsky-Korsakov, mais en février 1913, Stravinsky s'est rendu compte que la tâche était bien trop lourde et il a demandé que Maurice Ravel serait embauché par Diaghilev pour l'assister avec les orchestrations. Ravel a voyagé alors en mars 1913 à Clarence, en Suisse, où Stravinsky passait le printemps. Leur travail était complété en avril et les deux étaient de retour à Paris en mai 1913. Entre-temps, Fédor Chaliapine, la vedette de la production parisienne, qui chantait le rôle de Dosité, refusait d'apprendre la nouvelle version en cours de création. À la fin, Diaghilev et Chaliapine arrivaient à négocier un compromis. La seule nouvelle musique que le chanteur devait mémoriser était celle du final stravinskien. Pour le reste, la Kovanchina parisienne consistait de la version établie par Rimsky-Korsakov, mais avec des coupures importantes, y inclut le deuxième acte entier, ainsi que plusieurs scènes du troisième et la seconde moitié du quatrième acte. Cette version tronquée de l'opéra était augmentée par deux scènes chorales, orchestrées par Maurice Ravel, ainsi que par le chœur final de Stravinsky. Par ailleurs, Diaghilev ne programmait pas ce nouveau chœur qu'à partir de la troisième représentation, utilisant celui de Rimsky-Korsakov pour celle du 5 et 9 juin. Ce bref aperçu de l'histoire de la version parisienne de Kovanchina révèle déjà une multitude d'acteurs avec des intérêts disparates, sinon contradictoires, auxquels ajoutent des musiciens et critiques russes et français de l'époque, ainsi que la famille du premier des réviseurs, Rimsky-Korsakov. Une réflexion plus approfondie sur leurs rôles respectifs montre que leurs intérêts, souvent enchevêtrés, vont des questions simplement pratiques. Apprendre un rôle, par exemple, aux questions et positions esthétiques vis-à-vis une œuvre qui permet, grâce à son état d'inachèvement, d'intervenir dans le tissu musical laissé par l'auteur mort. Je commence par la contribution qui semble au premier abord être la moins compliquée, à savoir les orchestrations par Ravel de deux passages de Moussorgsky omis par Rimsky-Korsakov. Contrairement à Stravinsky, dont les révisions impliquaient une critique du travail antérieur de son ancien professeur de composition, Rimsky-Korsakov, la contribution de Ravel était cadrée comme une besogne de restauration. Ravel lui-même a décrit son travail sur la partition comme, je cite, « la restauration des passages auparavant omis, sans changer une seule note du manuscrit original et ne créant rien qu'une orchestration fidèle du manuscrit de Moussorgsky ». Mais c'est là une déclaration un peu fallacieuse, comme le révèle un examen détaillé de cette orchestration. Cette approche est possible dorénavant parce que le manuscrit de Ravel, qu'on pensait perdu, vient de réapparaître dans la collection Koch à l'Université de Yale. Regardons donc de plus près un passage du premier acte, « Le cœur de Moscovite ». Les premières mesures suivent précisément le manuscrit de Moussorgsky dans une orchestration d'un coloris riche, déployée sur une fondation de cordes que j'ai marquée ici en rouge, alternant puis se superposant avec des bois en vert et les cuivres en bleu, dans une sonorité orchestrale fondue, enveloppant et doublant les voix du chœur. Avec l'entrée des bois, Ravel ajoute aussi un tambour en double croche, ça c'est marqué en violet, qui contribue à la verve de ce passage inspiré d'une chanson populaire. Ravel contraste ce coloris orchestral riche avec la sonorité des cuivres en unisson soudaine sur mi bémol, indiqué avec la première flèche en bleu, quand le chœur devient silencieux, en découvrant que le nouveau pilier érigé pour les annonces du gouvernement était arrivé à travers la nuit. Cette alternance rapide de timbres se répète encore deux fois, signalant clairement le changement abrupt de l'évocation d'une chanson populaire tapageuse avec son accompagnement vif, vers une musique marquée par son caractère gestuel. Je dois remercier mon collègue de l'Université de la Caroline du Nord, le compositeur Lee Weissert, qui nous a fait un grand cadeau pour aujourd'hui en recréant cette orchestration par des moyens digitaux, nous permettant ainsi d'écouter maintenant, pour la première fois depuis 1913, ce bref extrait d'orchestration de Ravel. Nous avons décidé de supprimer les parties vocales pour diriger l'attention sur les sonorités instrumentales. Voilà. C'est pas mal. Le choix de coloris instrumental s'accorde avec les caractéristiques des orchestrations de Ravel. Comme le montre cet extrait de Daphnis et Chloé, celui-ci utilise les cordes comme une couche de base sur laquelle il crée la couleur orchestrale par les bois et cuivres, souvent utilisés en bloc et colorés par les percussions. Bien que cet exemple de Covancina montre une proximité étroite avec les notes de l'original, l'orchestration révèle un accent ravelien distinct. En outre, d'autres parties de l'instrumentation de Ravel montrent des coupures, soit de petites phrases, soit de sections entières et assez substantielles de la musique de Moussorgsky. Il n'est pas clair qui faisait le choix au sujet de coupures, un choix contraire à l'assertion de fidélité de la part de Ravel. Ma comparaison de l'orchestration de Ravel avec la partition de Moussorgsky a été rendue possible par la publication en 1931 de tous les matériaux manuscrits provenant de Moussorgsky pour Kovanchina par le musicologue russe Pavel Lam. Mais Maurice Ravel créa cette orchestration 18 ans auparavant en Suisse, tandis que les sources manuscrites demeuraient à Saint-Pétersbourg. Quels sont donc les matériaux sur lesquels cette orchestration est basée? Il est raisonnable d'assumer que soit Diaghilev, soit Stravinsky aient transcrit à Saint-Pétersbourg les passages à restaurer, mais ces transcriptions sont actuellement perdues. Ce qui survit dans la collection de la British Library est la partition publiée par Bessel et que Diaghilev avait annotée en 1910. Là, il marqua les différences entre la version de Moussorgsky et celle de Rimsky-Korsakov, en plus d'indiquer des coupures supplémentaires. Ce document, néanmoins, ne contient pas de transcription musicale. Nous ne savons que très peu de choses au sujet de travaux effectués en Suisse, mais le fils de Stravinsky, Théodore, rappelle que les deux compositeurs se tenaient sur le balcon de la villa à Clarence, je cite, « sifflant une phrase brève, 5, 10, 15 fois au merle dans le jardin, jusqu'à ce que les oiseaux sifflent la même phrase en retour. » Alors, les oiseaux moussorgskiens suisses. Mais la simultanéité d'une fidélité à l'original des orchestrations de Ravel, d'une part, et de coupures substantielles dans les mêmes endroits de l'œuvre, de l'autre, pose des questions non seulement en ce qui concerne les rôles des différents participants dans cette entreprise d'achèvement, mais aussi celle fortement contestée à l'époque de l'autorité artistique sur la partition de Kovanchina. Cette question de l'autorité artistique était étroitement liée aux discussions parisiennes au sujet de la restauration, de l'authenticité des œuvres musicales qui avaient été suscitées soit par un passé obscur, soit d'un état d'inachèvement. Diaghilev était bien conscient de ces discussions, surtout depuis 1908, quand, malgré le triomphe spectaculaire de son Boris Godounov, la critique parisienne l'accusait de distordre la partition avec des coupures substantielles qu'il lui avait imposées. Ce discours parisien, qui affirmait l'autorité suprême de la partition originale, et je reviendrai à ce que ça voulait dire à cette époque, ce n'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Alors, ce discours parisien offrait à Diaghilev une opportunité de lancer sa version de Kovanchina comme la plus authentique de l'œuvre, mettant ainsi en question l'autorité de celui qui avait créé la version avant lui, c'est-à-dire Rimsky-Korsakov. En Russie, cette initiative déclenchait un conflit grave et public entre Diaghilev et la famille du feu compositeur. Diaghilev finit par accuser Rimsky-Korsakov publiquement de trahir la partition de Moussorgsky, invoquant en même temps le rôle de la presse parisienne comme un site d'autorité artistique. Je cite. « J'ai passé l'hiver dernier à étudier à la bibliothèque publique le manuscrit original de la Kovanchina et j'ai constaté que, dans la seule édition existante de cet opéra, publiée sous la direction de Rimsky-Korsakov, il ne reste pas un endroit vierge, c'est-à-dire il n'y a quasiment pas une seule page de manuscrit original qui n'ait pas subi quantité de rectifications et de modifications de la main de Rimsky-Korsakov. À propos de Boris, on dit habituellement « oui, mais il existe aussi dans sa rédaction originale. Et la Kovanchina restera-t-elle pour toujours l'œuvre de Rimsky-Korsakov ?» Voilà ce qu'on dit et ce dont s'indigne avec véhémence la quasi-totalité de la presse française, qui exige depuis plusieurs années déjà qu'on lui donne enfin le Moussorgski authentique, non corrigé par le professeur Korsakov. Ce passage de la plume de Diaghilev a reçu une réponse lors de la première parisienne de Kovanchina par le fils du compositeur Andrei Rimsky-Korsakov, qui avait appris que cette version combinait les passages de la version de son père avec des adaptations par Ravel et Stravinsky. Andrei Rimsky-Korsakov a fait une fine et importante distinction entre d'une part la révision par Diaghilev, Stravinsky et Ravel de la version de Rimsky-Korsakov, qui considérait comme une mutilation et un acte de vandalisme, et d'autre part la possibilité d'une version entièrement nouvelle de Kovanchina, créée, comme il dit, par un artiste important et dans sa propre façon. Et on pourrait presque penser à une clairvoyance, parce qu'après il y avait aussi, bien sûr, la version de Shostakovich. Mais Andrei Rimsky-Korsakov commit l'erreur de décrire à plusieurs reprises la version de son père comme, il dit, une œuvre conjointement créée par deux artistes, affirmant que le choix de Diaghilev révélait un manque de goût sérieux en mélangeant, comme il dit, du Moussorgski original avec du Moussorgski ayant passé par les mains de Rimsky-Korsakov d'abord et puis celle des messieurs Ravel et Stravinsky. Bien que ces accusations aient été publiées en russe, ce n'est pas Diaghilev qui y répondit, mais Ravel. Le compositeur français a tourné en dérision l'idée que l'achèvement d'une partition laissée incomplète par la mort d'un compositeur pourrait constituer une œuvre créée conjointement. Il a dénoncé le concept d'une proximité spirituelle entre Moussorgski et Rimsky-Korsakov avancée par Andrei comme étant une expression rudement nationaliste, et il a continué en écrivant, je cite, « Suivant un tel prétexte racial, pourrait-on proposer que Glazunov complète l'œuvre de Stravinsky ou encore Saint-Saëns celle de Debussy ?» Alors ça, c'est des insultes. Que Dieu nous sauve des collaborateurs posthumes, collaborateurs en italique en original, collaborateurs posthumes, surtout ceux du talent. Autre insulte, c'est pas génie. Pour le compositeur français orchestrant la musique d'un compositeur russe, une telle association était un anathème. Si je cite si longuement les textes de Diaghilev, Andrei Rimsky-Korsakov et Ravel, c'est parce qu'ils vont au cœur de la question de l'autorité artistique dans le cas de l'achèvement posthume d'une œuvre, ainsi que du rôle de la mort d'un auteur impliqué dans le processus. Pour la Kovanchina parisienne, nous nous trouvons face à deux auteurs décédés, l'un dont la mort a laissé inachevée l'œuvre en cours de composition, l'autre ayant créé la seule version connue pendant un quart de siècle. De son vivant et grâce à sa position de premier musicien de l'Empire russe, Rimsky-Korsakov s'avérait donc le gardien autant que le médiateur principal de l'héritage moussorgskien, et Kovanchina, dans ce scénario, constituait une œuvre achevée et complétée. Ce n'est qu'après la mort de Rimsky-Korsakov en 1908 que Diaghilev a été en mesure de remettre en question la version de Rimsky-Korsakov comme une distorsion de la musique originale. Une fois que Diaghilev avait séparé l'opération d'achèvement de Rimsky-Korsakov de l'œuvre de Moussorgski, son projet de restauration pouvait se justifier par l'autorité du compositeur, c'est-à-dire Moussorgski lui-même. Ce n'est pas par hasard que Diaghilev a évoqué à plusieurs reprises la presse musicale française dans ses justifications pour une telle restauration de Kovanchina. En effet, la question de la restauration des œuvres du passé avait une histoire importante et amplement discutée dans les cercles musicaux en France, surtout par rapport à la musique ancienne, du chant grégorien édité par les moines des Solèmes, aux opéras de Gluck, Monteverdi et Rameau présentés sur les scènes parisiennes. La conception de ce que serait une partition originale restaurée d'une œuvre musicale était néanmoins fluide. Souvent, il s'agissait d'adaptations assez libres. À l'époque de la première de Covancina, les théâtres parisiens étaient remplis d'œuvres reconstituées, y compris la version tronquée de Vincent d'Indy du Couronnement de Poppée de Monteverdi, présentée en février 1913. Si mon évocation de Monteverdi semble arbitraire, sinon surprenante dans ce contexte, elle était moins à l'époque. Pierre Lalot, par exemple, dans sa critique de Covancina, a comparé deux scènes construites de façon similaire dans les deux opéras et exprimé sa surprise que Poppée n'était pas encore redécouverte à la mort de Moussorgsky. Mais c'est moins une mise en relation avec d'autres œuvres clés du répertoire qui domine la réception de Covancina en France. C'est la question de savoir si la version de Diaghilev arrivait à traduire l'essence même de l'œuvre par cette restauration, insérant ainsi Covancina dans le discours parisien sur les reconstitutions artistiques. En introduisant ce troisième point, j'utilise un terme qui n'est pas dénué de problèmes et qui a été discuté et disputé en musicologie dans le cadre de la critique du concept de l'œuvre de la musique classique, d'une part, et de recherche sur la musique de grandes traditions improvisées mondiales, de l'autre. Si j'évoque ce terme et son aura compliquée et multidimensionnelle, c'est parce qu'il permet de saisir un aspect caractéristique de l'intrigue de l'achèvement d'une composition comme elle se posait dans le cas de Covancina en 1913. En musicologie aujourd'hui, l'œuvre lyrique est comprise comme une création fondamentalement collaboratrice, qui inclut une constellation toujours renouvelée de participants avec chaque itération du librettiste au metteur en scène. Mais au début du XXe siècle, l'ombre de Richard Wagner et de ses idées de l'œuvre d'art total avait englobé la musique européenne, configurant le drame lyrique comme l'œuvre d'un seul créateur, le musicien-poète. Qui plus est, un drame lyrique ainsi conçu était également compris comme une incarnation du génie national de son créateur. L'assertion au cœur de la version parisienne de Covancina était donc une opération de sauvegarde, une restauration de cette essence même de l'œuvre de Moussorgsky, comme elle était comprise à l'époque. Cette réinterprétation en 1913 de Covancina, à la recherche de son essence simultanément moussorgskienne et russe, se réalise surtout dans le chœur final de Stravinsky. Celui-ci s'était déjà revendiqué d'une authenticité sonore vis-à-vis une Russe atavique et ses rituels avec le Sacre du printemps, présenté au cours de la même saison, en fait une seule semaine avant Covancina. Pour la révision de Covancina, Diaghilev et Stravinsky utilisaient une approche similaire, mettant l'emphase sur ce qui était conçu comme « primitif », entre guillemets, à savoir la musique associée avec les vieux croyants et d'osité. Ils ont créé une sorte d'opéra choral en enlevant une grande partie de la musique pour soliste, y compris le rôle entier du prince Golitsyn, et ils n'ont gardé que la plus grande partie du rôle de d'osité, mettant ainsi l'emphase sur le vieux croyant en réduisant la présence du monde occidental du tsar Pierre. Stravinsky est allé encore plus loin, introduisant une attitude anti-occidentale dans le tissu même de ses notes, en imitant les pratiques du Podgolski, une forme de polyphonie hétérophone associée avec les sectes anciennes. Le contraste avec la fin conventionnelle, calquée sur le modèle cosmopolite du grand opéra qu'avait créé Rimsky-Korsakov, n'aurait pu être plus marqué. Rimsky-Korsakov a terminé sa partition avec une fanfare de trompettes annonçant l'arrivée des troupes du tsar, résolution impériale entièrement inventée par le reviseur et nullement présente dans les matériaux manuscrits de Moussorgsky. Pour les sonorités qu'il a créées pour la fin de Comanchina, Stravinsky s'est inspiré des timbres orchestraux qu'il connaissait de Moussorgsky, mais il les a mis au service d'une vision de l'œuvre mettant l'accent sur le sacrifice de vieux croyants, une vision d'une Russie ancienne en voie de disparition. Ce n'est pas la Russie païenne du Sacre du Printemps, mais une Russie archaïque néanmoins. Même une fin extraordinaire. Nous ne savons pas comment le public parisien a réagi à cette nouvelle fin. Seule une petite note dans Comédia indique que, je cite, « le chœur final recomposé par M. Igor Stravinsky, d'après quatre thèmes de Moussorgsky, produisit grand effet ». Ceci est entièrement plausible, parce que le public et les critiques parisiens considéraient le chœur de Comanchina comme le centre expressif de l'œuvre marquée par le chant russe, revendiquant le choix de Diaghilev dans cet achèvement par-delà des frontières. La Comanchina parisienne offre donc un cas d'achèvement unique situé entre deux champs culturels et leurs exigences différentes. En Russie, les interventions dans la partition de la part de Diaghilev, Stravinsky et Ravel était soupçonné d'être une attaque à l'autorité de Rimsky-Korsakov en abusant la musique et le nom de Moussorgsky. En France, la présentation de Comanchina a été reçue comme une révélation d'un autre chef-d'œuvre de Moussorgsky, musicien-poète russe, dont le cœur caractérisait l'essence musicale de l'âme slave. Mais dans le contexte de la Russie, ces deux achèvements représentaient aussi deux visions différentes de la culture russe. L'une, un cosmopolitisme impérial avec un accent russe, l'autre, une configuration primitiviste d'une Russie atavique par Diaghilev et Stravinsky. L'évocation de l'authenticité de la Restauration ne faisait qu'ajouter à cette attirance. Ce que révèle la Kovanchina parisienne, c'est la contingence historique des achèvements des œuvres musicales, surtout dans un contexte tel qu'un Paris moderniste, où le compositeur était transformé en auteur principal du drame lyrique. Il était essentiel que l'on pût croire que la musique au théâtre des Champs-Élysées, en ce mois de juin 1913, était en effet non seulement celle de Moussorgsky, mais aussi celle provenant d'une Russie véritable. Merci.
Bon, merci beaucoup, formidable. Et en plus, on a eu une première mondiale, c'est quand même pas mal. Le collège peut s'enorgueillir d'avoir accueilli Ravel, Moussorgsky, contre, etc. Et c'est un scénario assez étonnant. C'est une très jolie idée que d'historiser les restaurations et surtout d'y introduire ces conflits de culture. La fin de l'œuvre, c'est absolument saisissant. Là, c'est une démonstration. Les musicologues peuvent faire des démonstrations. Et elle est extraordinairement convaincante parce qu'elle est immédiatement perceptible. Et donc, ça veut dire aussi que Ravel savait vers où il allait, lui. Il avait une idée très précise du camp à choisir. Surtout pas. Mais c'est vrai que Moussorgsky était un cas assez étonnant parce que déjà son Boris Godounov était compliqué. Et donc, il est connu encore une fois comme un. Dans la mise en intrigue, il faut toujours choisir les bons cas, évidemment, parce que Rimsky-Korsakov ne s'est pas trompé, d'ailleurs, il a mis son grain de sel. Et Shostakovich, vers où il est allé, lui? C'était ma question un peu en dehors du... Parce que je voudrais en savoir encore plus. Mais il est allé vers quel sens? Primitivisme, cosmopolitisme, Shostakovichisme? Qu'est-ce qu'il a fait, au juste, dans un autre contexte encore?
Il a fait du Shostakovich. C'est une des choses que moi j'adore en regardant les orchestrations des œuvres d'autres compositeurs qui arrivent après. C'est on peut vraiment voir une sorte de souvent tension entre la musique qui est là, soit en fragments, soit entier, comme dans les images d'une Pictures of a. Comment est-ce que ça s'appelle, Yves?
Tableau
et
exposition, oui.
Où on a quand même une œuvre complète en piano, ouais, que Ravel a orchestré aussi. Et ça a tellement la patte de Ravel, on ne peut pas méprendre pour quelqu'un d'autre que Ravel. C'est la même chose avec Shostakovich. Et j'ai eu le grand plaisir d'être dans le théâtre Mariinsky, où ils ont donné la version de Kovanchina dans la version Shostakovich, mais avec les décors de 1913. Alors ça encore, c'était une forme de reconstitution à travers deux versions tout à fait rivales. Et la version de Shostakovich, elle est assez fidèle à la version de l'âme, c'est-à-dire à la version qu'a créé l'âme à partir des manuscrits de Moussorgsky. Mais comme j'ai vu sur cette table, il y a, surtout pour le cinquième acte, énormément de choses qui manquent. Il y a plusieurs scènes qui sont incomplètes. Il y a des restaurations qu'a Rimsky-Korsakov a fait, sur lesquelles Shostakovich a basé ses propres orchestrations. Mais il n'y a strictement rien pour la... non, ce n'est pas vrai. Il y a un seul sujet, un seul thème pour le chœur final. Et c'est le chœur final où les différents auteurs ont fait leur choix. Comment, en effet, représenter la Russie? Alors, pour Rimsky-Korsakov, c'était une Russie impériale triomphante. On a bien pu l'écouter dans les trompettes. C'est en fait le motif le thème du tsar Pierre qu'on a déjà entendu dans l'opéra, je crois que c'était le deuxième acte. C'est toujours ce motif qui revient. C'est du très très bon ménage de compositeur ce qu'a fait Rimsky-Korsakov pour créer un opéra impérial. Pour Stravinsky, c'était cette fin complètement cadrée sur le vieux croyant. C'est la fin la plus radicale, en effet. Shostakovich, il fait quelque chose entre les deux. Il prend les motifs de Moussorgsky, mais il réintroduit lui aussi les trompettes. Il y a les trompettes du tsar arrivant, mais c'est moins glaring. Qu'est-ce que c'est ?
C'est moins évident.
C'est moins dans le visage.
C'est, ah moins, oui, c'est moins frappant.
C'est moins frappant, c'est moins impérial. Mais mon collègue Richard Taraskin, il a fait le point qu'en fait, la version de Shostakovich dans l'esprit est beaucoup plus proche de celle de Rimsky-Korsakov parce qu'il y avait une sorte de vénération de Pierre aussi sous une reçue. Staliniste, je crois que c'était encore staliniste quand elle a fait ça. Il était encore vivant, oui.
Je vais passer la parole à qui la demandera, sinon j'ai d'autres questions.